France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ce sommet-là aura-t-il lieu ? Donald Trump et Xi Jinping doivent en principe se retrouver face à face jeudi prochain à Jeonju, en Corée du Sud, en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Déçu une nouvelle fois par Vladimir Poutine, qui n'a pas accepté les bases proposées par Washington pour discuter de l'Ukraine, le président américain a envie et besoin de la photo avec son homologue chinois. Il s'agit pour lui de conforter sa stature de gagneur, de grand maître du deal, au moment où l'escalade des droits de douane et des mesures de rétorsion réciproques entre les États-Unis et la Chine menacent tout autant leurs économies que l'ensemble des échanges internationaux. En jeu, la confrontation commerciale, évidemment, mais aussi la confrontation technologique et stratégique entre la première puissance mondiale et sa principale rivale. Avant le Japon et la rencontre avec la nouvelle première ministre, Donald Trump commence aujourd'hui sa tournée asiatique par la Malaisie et la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge qui devrait compter pour son prochain prix Nobel. Mais c'est évidemment l'espoir d'un sommet et même d'un accord avec Xi Jinping qui motive la Maison-Blanche. Cette rencontre, prévue jeudi, peut-elle encore capoter ? Tout dépend en fait des négociations qui ont lieu en ce moment même à Kuala Lumpur entre le vice-premier ministre chinois He Lifeng et Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor. À eux de délimiter à minima une ère de discussion alors que Pékin interdit pratiquement toute exportation de terres rares dont l'économie et la défense américaine ont tant besoin et que Washington menace en rétorsion de frapper de 130% les importations chinoises. Quels sont donc, de part et d'autre, les atouts et les faiblesses ? Xi Jinping comme Donald Trump ne connaissent que les rapports de force. Stabilisation, réchauffement ou glaciation dans cette nouvelle forme de guerre froide ? Pour Taïwan et pour l'Europe, dans des registres différents évidemment, quels sont les risques d'être les victimes collatérales d'un rapprochement éventuel ? Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre ce matin. Grâce à vous, Elvire Fabry, vous êtes chercheuse senior, quelle drôle d'expression, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors, rapporteur du groupe de travail sur les relations Union européenne-Chine. Jean-Pierre Cabestan, merci d'être avec nous depuis Hong Kong. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur émérite à l'Université Baptiste de Hong Kong. Marc Julienne, vous dirigez le Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Et Gilles Lepesant, vous êtes directeur de recherche au CNRS en géographie, au Centre français de recherche en sciences sociales à Prague. Marc Julienne, est-ce que cette rencontre aura bien lieu jeudi prochain ?
Bonjour Christine. Avec Donald Trump, il serait présomptueux de faire des estimations un peu trop fermes, surtout à encore une semaine presque, enfin à 4-5 jours de cette rencontre. Il l'a dit à plusieurs reprises, il souhaite rencontrer Xi Jinping. Ça a failli capoter une première fois au moment où la Chine a mis en place des mesures de contrôle d'exportation sur les terres rares. Donald Trump s'est fâché tout rouge et puis finalement le lendemain, il s'est calmé. Et puis là, il semblerait qu'il veuille vraiment cette rencontre. Mais voilà, encore une fois, avec Donald Trump, on peut difficilement faire des pronostics un peu trop précis.
Mais peut-on en faire de façon plus précise du côté de Xi Jinping, alors que l'opacité, c'est vraiment l'inverse ? Donald Trump n'arrête pas de vociférer, mais Xi Jinping, c'est vraiment l'opacité, et ce, au sortir du dernier plénum du comité central qui a travaillé sur le prochain plan quinquennal. Donc on est évidemment dans un régime et même dans un personnage dont le style et les motivations sont complètement différents.
Oui, tout à fait. Là, on est vraiment face à une boîte noire. Tous les pékinologues, ceux qui essayent de regarder à l'intérieur de la boîte noire du Parti communiste, sont en émoi en ce moment, puisque il y a une grande fébrilité à l'intérieur du Parti communiste. Alors là, effectivement, on vient de sortir du 4e plénum du comité central du Parti communiste, qui a publié un communiqué à l'issue. Et dans ce communiqué, un peu long et aride à lire comme tout document du Parti communiste, il est quand même bien stipulé clairement que Xi Jinping reste le dirigeant au cœur du Parti communiste, sous une direction centralisée en sa personne, etc. Donc ça tendrait à indiquer que Xi Jinping est toujours l'homme en charge en Chine et de manière incontestée. Mais si je parle d'une certaine fébrilité et qu'on se pose beaucoup de questions, c'est que quelques jours avant l'ouverture de ce 4e plénum, a été publiée une liste de 9 généraux et des très hauts généraux de l'armée populaire de libération, de l'armée chinoise, qui viennent d'être limogés. Parmi eux, 2 d'entre eux sont des membres de la commission militaire centrale, soit l'organe suprême de commandement de l'armée populaire de libération. Et des personnalités qui ont été promues ces dernières années, y compris jusqu'à la commission militaire, par Xi Jinping lui-même. Et donc ils étaient connus comme faisant partie, en tout cas certains d'entre eux, les plus élevés, comme faisant partie de ce qu'on appelle la clique du Fujian, donc de cette province de l'Est de la Chine, où Xi Jinping a exercé toutes les années 90. Et donc, on s'interroge beaucoup sur ce limogeage étonnant à la fois de personnalités militaires qui sont très puissantes, mais qui sont aussi très proches de Xi Jinping. Alors, est-ce qu'il y a eu un différend entre eux et que du coup, il se sépare de ses conseillers, ou est-ce qu'il a été poussé à le faire par des factions adverses, ce qui tendrait à indiquer qu'il y a un rapport de force au sein du parti ?
Mais en tout cas, ces rapports de force, Marc, on les retrouve donc avec ce durcissement sur le plan interne, mais aussi, cela veut dire manifestement que Xi Jinping durcit encore le blindage du régime au moment d'un affrontement avec les États-Unis.
Oui, parce que là, je viens de parler de l'Armée populaire de libération, mais il y a aussi eu des très hautes personnalités qui ont été limogées. Donc, quand je dis limogées, c'est qu'en général, ils disparaissent. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, il y a un communiqué laconique qui dit qu'ils ont été exclus du parti et en tout cas de leur fonction. Et donc, il y a eu beaucoup de personnalités, notamment du domaine de la diplomatie, ce qui est pourtant un domaine extrêmement exposé internationalement. Et peut-être aussi qu'il faut préciser que la Chine est dans une situation intérieure économique extrêmement compliquée. Depuis l'étranger, depuis l'Europe, on voit la Chine comme une très grande puissance industrielle qui exporte massivement des produits, et c'est une vision absolument exacte. Mais sur le plan intérieur, justement, s'ils exportent autant vers l'étranger et vers l'Union européenne en particulier, c'est parce qu'il n'y a pas de consommation intérieure, puisque les Chinois ont peu confiance dans le gouvernement et la stabilité économique de leur pays. Ils s'épargnent énormément, il y a des problèmes de dette très importants, des problèmes de chômage chez les jeunes. Et donc, c'est ce qui peut aussi expliquer une certaine fébrilité, voire, mais là je m'avance un petit peu, peut-être que Jean-Pierre Cabestan d'ailleurs aura une idée sur la question, mais voire peut-être une remise en question ou une contestation à l'intérieur du Parti communiste à l'égard de la ligne politique avancée par et défendue par Xi Jinping. D'ailleurs, dans le communiqué du 4e plénum, a été présenté, vous l'avez dit, les grandes recommandations pour le 15e plan quinquennal qui sera adopté en mars prochain. Et finalement, c'est presque une copie conforme du précédent plan quinquennal, c'est-à-dire on mise tout sur l'industrie, tout sur les nouvelles technologies. Et on parle quand même un petit peu de consommation, mais sans argument vraiment très concret sur comment est-ce qu'on va relancer cette consommation. Donc moi, ce que je retire de ce communiqué, c'est d'une part la centralité de Xi Jinping, encore et toujours, et l'industrie et la technologie comme moteur de l'économie, même si ça ne va pas faire que les Chinois vont davantage consommer.
Précisément, Jean-Pierre Cabestan, à Hong Kong, vous êtes un peu plus près, tout est relatif, de la cité interdite. Quelle est votre perception, justement, de cette façon dont Xi Jinping se montre en état de force à quelques jours, en principe, de cette rencontre avec son homologue américain ?
Oui, je pense qu'en Chine, on ne peut pas séparer l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, les oreilles du Parti communiste, sont très conscients du fait qu'il faut qu'ils apparaissent unis, forts et en position donc favorable à la veille d'une rencontre avec le président américain Trump, qui ce sera une rencontre quand même relativement difficile hein, pour, de part et d'autre. Donc je crois qu'il y a une capacité du pouvoir chinois à la fois à masquer ses divisions et puis à masquer ses faiblesses qui ont été rappelées par Marc-Julienne. Hein. L'économie est au ralenti, le secteur immobilier reste en crise, il y a quand même un certain nombre de problèmes économiques et sociaux qui se sont accumulés ces dernières années, le passage à la consommation est loin d'être probant. Et puis alors, je pense que ce qu'on peut ajouter concernant Xi Jinping lui-même, c'est que en fait, il est quand même contesté. Il est contesté depuis plusieurs années pour diverses raisons, à la fois la concentration des pouvoirs, mais aussi le fait qu'il ait révisé la Constitution en 2018 pour rester président de la République et numéro un du pays aussi longtemps qu'il le souhaite. On voit que la succession n'est pas du tout engagée. Hein. On voit aucune personnalité sortir du lot et choisi ou pressenti pour succéder à terme à Xi Jinping. Donc Xi Jinping va rester au pouvoir probablement encore un quatrième mandat, c'est-à-dire entre 2027 et 2032, si ça, évidemment sa santé reste bonne. Mais je pense que ce qui s'est passé dans l'armée, c'est pas seulement une affaire de corruption, hein. C'est aussi ce sont des problèmes politiques, des problèmes de loyauté à l'égard de Xi Jinping. Alors évidemment, le paradoxe, ce sont les généraux qui ont été limogés, ont tous été promus par Xi Jinping lui-même. Mais je pense qu'il y a des dissensions entre plusieurs factions au sein de l'armée, mais aussi qui reflètent, je pense aussi, des divisions au sein des couches supérieures du parti par rapport à Xi Jinping. Et aussi, sa stratégie économique, mais aussi, je dirais plus particulièrement, sa manière d'aborder ses relations avec l'extérieur. Ça aussi, il a quand même contribué à accroître les tensions avec les États-Unis. Trump y a évidemment joué un rôle, mais l'opposition de la Chine, d'une manière générale, pas seulement aux États-Unis, mais à l'Occident, son alliance de fait, et on en reparlera peut-être avec la Russie sur l'affaire la guerre en Ukraine, sa critique permanente aussi de l'OTAN et du système d'alliance américain dans l'Indo-Pacifique, on voit une Chine quand même qui colle beaucoup à la Russie de Poutine, à la fois dans son discours, dans son récit, dans son idéologie. Et là, il y a une espèce de convergence entre ces deux pays qui est à la fois stratégique, mais aussi reflète aussi une convergence entre les deux systèmes politiques. Donc, et ça, c'est quelque chose qui divise aussi les Chinois, les analystes, d'abord, parce que c'est eux qu'on voit, et puis derrière les analystes, probablement aussi l'élite politique. Il y a un débat, on ne le voit pas beaucoup, parce qu'il est extrêmement camouflé, hein, et puis même censuré, je dirais, entre les spécialistes des relations internationales sur la question de la position et le positionnement de la Chine, si vous voulez, par rapport à la guerre en Ukraine. Au départ, on est parti sur une ligne de neutralité officielle, et puis on s'aperçoit que la Chine apporte un soutien à la Russie qui est massif, à la fois pour ses achats d'hydrocarbures, mais aussi par ses transferts de technologie, une aide qui n'est pas directe à l'effort militaire, mais qui est quand même très substantielle, qui permet à la Russie de faire face à l'Ukraine sur le terrain, comme on le voit depuis 3 ou 4 ans maintenant.
Précisément, Elvire Fabry, il est évident que du côté américain, c'est même l'inverse. Il n'y a pas de telle faille. Il y a au contraire, autour de Donald Trump, un premier cercle qui pratique une adulation véritablement sans limite. Donc, pour reprendre son propre langage, qui, selon vous, a les meilleures cartes entre Trump et Xi quelques jours avant cette rencontre qui devrait avoir lieu jeudi?
Bonjour Christine. Ce que l'on voit, ce à quoi on assiste là, c'est véritablement une rencontre, un choc des titans, une confrontation des éléphants. Et si Xi Jinping a pu s'opposer en avril dernier à Trump en menaçant d'appliquer des droits de douane de 125% contre la menace de Trump d'en appliquer à hauteur de 145%, C'est bien parce qu'aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping en 2025 a beaucoup plus de cartes dans son jeu qu'elle n'en avait lors du premier mandat de Trump 1. Et lorsque l'on essaye d'évaluer un petit peu les points forts et les faiblesses d'un côté, la liste en fait est assez claire du côté américain parce que ce sont tous les secteurs sur lesquels la Chine a travaillé depuis 2018 en essayant de réduire sa dépendance aux États-Unis dans ces secteurs-là. Alors on pense bien sûr aux atouts technologiques des États-Unis, à l'avancée des États-Unis dans tout ce qui est à la fois infrastructure numérique, c'est-à-dire des semi-conducteurs, les capacités de cloud, de stockage de données et autres, à également toute la maîtrise des logiciels qui sont utilisés depuis les ordinateurs jusque dans les avions et dont dépend non seulement la Chine mais tout le reste du monde. On l'avait vu il y a quelques mois déjà avec la capacité d'innovation de la Chine et les puces de Huawei qui avaient réussi à impressionner toute la communauté les géants de la tech américains. C'est également vrai en matière de capacité de défense, puisque les capacités de défense des États-Unis ont aussi un poids sur les débats commerciaux. Combien de voisins de la Chine cherchent à garantir le soutien des États-Unis en matière de sécurité et à assurer ces garanties de sécurité par des négociations sur le terrain commercial, c'est important. Et on le sait, la Chine n'a fait qu'augmenter ses capacités d'équipement militaire et sa puissance militaire ces dernières années. Les États-Unis ont le dollar pour eux. La Chine a essayé de réduire sa dépendance au dollar américain et les risques d'extraterritorialité, donc de mesures de sanctions qui vont avec, en essayant de dédollariser les échanges commerciaux qu'elle a avec un certain nombre de partenaires. Et on se souvient encore des engagements pris notamment par le Brésil. C'est pas simplement la Russie, l'Iran, mais c'est aussi des partenaires commerciaux comme le Brésil. Et alors que la Chine dépendait beaucoup des exportations d'alimentation américaine, et en particulier du soja, et en particulier après l'accord commercial qui avait eu lieu en 2020, la Chine a diversifié ses approvisionnements, en particulier avec les pays d'Amérique latine, Brésil, Argentine, et a été en mesure finalement de stopper ses importations de soja ces derniers mois, donc en montrant beaucoup plus de capacité de résilience. Et de l'autre côté, on a une Chine qui, elle, a une position très forte dans les approvisionnements en composants essentiels. On va parler là de manière plus approfondie des terres rares, mais il faut aussi penser à la position de leadership qu'a la Chine pour les composants des médicaments, les principes actifs des médicaments et dont dépendent énormément les États-Unis. Et ça, je dirais que ce sera un peu le deuxième terrain de confrontation qui va s'ouvrir sans doute dans les mois qui viennent, au-delà de la question de la confrontation sur les terres rares.
Alors on sait, Elvire, qu'en ce moment même, donc dans la capitale malaise à Kuala Lumpur, Bessent et le vice-premier ministre chinois sont en négociation. Il y a déjà eu 4 sessions de négociations tarifaires entre Américains et Chinois. À chaque fois, on se dit ça progresse et puis marche arrière. À ce stade, les États-Unis ont augmenté, je crois, de 55% leurs droits de douane vis-à-vis des exportations chinoises, c'est-à-dire les importations aux États-Unis. Mais cette arsenalisation des relations commerciales, elle frappe en fait tous les partenaires, autant de la Chine que des États-Unis.
Oui, parce que ça a mené Trump, en particulier, à prêter une attention plus spécifique au risque de contournement des droits de douane. Ce qui avait eu lieu lorsqu'il avait appliqué les premiers droits de douane en 2018, avec des pays qui étaient devenus des sortes d'intermédiaires, le Vietnam, le Mexique en particulier, le Canada, mais finalement une réorganisation de toutes les chaînes de valeur pour éviter ces droits de douane. Et aujourd'hui, Donald Trump impose des conditions beaucoup plus vigilantes sur tous les composants chinois qui pourraient circuler par ces pays d'intermédiation. Et le Vietnam en particulier, qui s'est vu imposer des droits de douane très sévères, alors qu'il a dû ouvrir son marché contre 0% de droits de douane pour les importations américaines, se verrait menacé de subir des droits de douane encore plus importants s'il entreprenait de réexporter des produits chinois. Ça a une incidence supplémentaire qui est aussi celle de réorienter les exportations chinoises vers certains marchés. Et alors là, comme Européens, on pense à la pression actuelle qu'exercent les importations chinoises dans le marché intérieur européen, dans un contexte de surcapacité, de surproduction chinoise, qui, comme ça vient d'être dit par Marc Julien, n'est pas absorbée par une consommation qui est en berne en Chine, et qui est en train de laminer certains secteurs de production dans l'Union européenne très rapidement. On a beaucoup parlé de l'acier chinois, mais actuellement, dans le secteur de la chimie, ça exerce une très forte pression. Et puis également, à travers toutes les plateformes de distribution, et on pense à Shein en particulier, c'est en train d'exposer certains pans de l'industrie européenne de manière beaucoup plus agressive que par le passé.
Gilles Le Pesant, vous allez nous expliquer ces fameuses terres rares qui sont en fait véritablement dans les mains de Xi Jinping, le meilleur atout qu'il a d'ailleurs abattu sur la table le 9 octobre dernier en imposant un tel contrôle des exportations de ces terres rares que Donald Trump, lui, s'est trouvé acculé à son tour. Puisque les États-Unis sont tout aussi dépendants que les Européens de ces terres rares. Alors avec vous, on va parler latin, parce que expliquez-nous ce que sont ces terres rares qui portent toutes, me semble-t-il, des noms latins.
Oui, en fait, le terme est un peu trompeur, parce qu'il ne s'agit pas de terres, mais d'éléments chimiques qui sont transformés en métaux. Mais on a conservé la terminologie qui était en usage au XVIIIe et XIXe siècle, quand les propriétés de ces terres rares ont été découvertes en Suède. Et le deuxième point, c'est que ces terres rares ne sont pas si rares que ça en réalité. On les trouve un peu partout dans le monde. Le problème est qu'il faut extraire de grandes quantités de roches pour récupérer des volumes très faibles et mélanger à d'autres éléments. Par exemple, puisqu'on parle de la Chine, un des plus grands gisements se situe en Mongolie intérieure. Et pour obtenir une cinquantaine de kilos de terres rares, il faut extraire au minimum une tonne de roches. Donc, ça a un impact considérable sur l'environnement.
Et alors, dites-nous les noms, parce que c'est très poétique.
Alors, il y a l'ytterbium, le sertium, le néodyme, dysprosium. En fait, une grande partie de ces terres rares porte des noms inspirés de villes suédoises, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été découvertes par des géologues suédois. Et parfois, elles portent aussi le nom de chercheurs qui, à l'époque, ont travaillé sur ces terres rares. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, une fois qu'elles sont extraites, il faut les raffiner. Il faut les séparer les unes des autres, il faut les purifier. Et donc, vous avez toute une série d'étapes qui suivent l'extraction. Et aujourd'hui, en Chine, mais aussi dans quelques autres pays où ces terres rares sont extraites, des réactifs chimiques sont utilisés. Et les déchets qui sont issus de ces processus sont considérables. Et naturellement, ces réactifs chimiques, vous les retrouvez dans les déchets. Et d'où la pollution de l'air, des nappes phréatiques que l'on constate dans plusieurs régions chinoises.
Mais je vous interromps, Gilles, juste pour donner quelques chiffres très brièvement, pour donner une idée de la domination de la Chine en la matière. Donc la Chine détient la moitié des réserves, réalise 60% de l'extraction, 90% du raffinage et produit 94% de ce qu'on appelle les aimants permanents, dont on a besoin non seulement dans plusieurs industries, mais aussi et surtout dans les industries de défense. Et c'est là, évidemment, où la lettre signée Xi Jinping est datée du 9 octobre, a provoqué la consternation à Washington et dans d'autres capitales.
Oui, précisément, vous pointez l'élément essentiel. On voit bien que la Chine extrait 60% seulement des terres rares, mais ensuite, elle détient un quasi-monopole dans les étapes suivantes. Et pour ces étapes-là, il faut des technologies avancées, un savoir-faire que la plupart des autres pays n'ont plus, que la Chine a acquis. Mais au terme de la Seconde Guerre mondiale, la puissance dominante dans ce secteur, c'était les États-Unis. C'est-à-dire que vous aviez un laboratoire qui travaillait sur l'uranium dans le cadre du projet Manhattan, pour la purification de l'uranium, mais aussi sur le raffinage des terres rares. Les États-Unis disposaient d'une mine en Californie et avaient une position en pointe sur ces sujets-là. Et puis, peu à peu, le sujet est tombé en désuétude, la mine a fermé, les investissements ont baissé. Et aujourd'hui, cette mine a été relancée, les investissements redémarrent, mais la Chine a une position très forte sur l'aval et notamment sur la production des aimants permanents. Et la lettre, la lettre à laquelle vous faisiez allusion, donc c'est-à-dire l'idée d'imposer des licences pour pouvoir importer ces terres rares. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise. En fait, la Chine réduit ou restreint, limite les exportations depuis 2004. Mais c'est vrai que c'est un processus qui devient de plus en plus important, qui touche des terres rares essentielles au secteur militaire et qui donc touche directement les États-Unis. Et ce que l'on voit, moi, ce que je vois dans cette décision prise récemment sur la liste des nouvelles terres rares qui vont faire l'objet de licences d'exportation, c'est que désormais, la Chine a un pilotage politique des exportations de ces terres rares, c'est-à-dire que les volumes, les prix vont pouvoir être modulés selon les moments et selon les clients. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, pour les clients, notamment pour l'industrie automobile, mais aussi pour l'industrie militaire dans le monde, parce que vous ne saurez jamais très précisément le prix que vous allez devoir payer pour ces terres rares. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les projets alternatifs qui émergent un peu partout dans le monde, puisque soudainement, le prix de ces terres rares peut diminuer si jamais la Chine, par exemple, décide de mettre sur le marché des volumes importants, auquel cas votre projet n'a plus un modèle économique viable. Donc ça, c'est je dirais, le premier point, c'est un pilotage politique. Et le deuxième point, c'est, pour reprendre un petit peu les propos que tenait Jean-Pierre Cabestan et Marc Julien tout à l'heure, je crois que la Chine teste les Occidentaux, teste les États-Unis et décide d'utiliser un de ses points forts pour mettre en lumière la vulnérabilité des pays occidentaux et bien sûr principalement des États-Unis.
Précisément, Elvire Fabrice, ce pilotage politique, pour reprendre l'expression de Gilles Lepesant, il faut bien dire que les États-Unis, et pas seulement Trump, Biden a fait la même chose, ce pilotage politique, les États-Unis l'ont utilisé à propos des semi-conducteurs, à propos de tout le software numérique, en faisant pression en particulier aussi sur les Européens. Et il y a le cas aux Pays-Bas, non seulement de l'entreprise ASML, qui est la plus grosse entreprise européenne de semi-conducteurs, mais aussi beaucoup plus récemment avec Nexperia, une autre entreprise située aux Pays-Bas, qui était la propriété d'un Chinois, lequel a été exproprié par le gouvernement néerlandais. Donc, et il y a véritablement, du côté américain aussi, cette pression sur les Européens et cette pratique d'utiliser les relations commerciales pour asseoir une prédominance politique.
Il y a une continuité entre Trump 1, Biden et aujourd'hui à nouveau Trump 2 sur ce sujet-là. Et on se souvient que pendant la présidence de Joe Biden, il y avait le Conseil de technologie et commerce qui était supposé aborder tous ces enjeux de coordination entre Européens et Américains, sur toutes les questions de sécurité économique et finalement toute une série de mesures anti-Chine que les Américains voulaient mettre en place en essayant d'avoir non seulement les Européens mais aussi d'autres partenaires alignés sur leurs mesures. Et ce que vous venez d'évoquer, le cas d'ASML, qui avait été donc interdit ou qui s'était engagé à ne pas exporter la dernière génération de technologie de lithographie de fabrication des semi-conducteurs vers la Chine était le syndrome de ce que l'on voulait éviter côté européen. C'est-à-dire finalement, en plus, une négociation qui avait été bilatérale entre Washington et les Néerlandais et sans coordination avec les Européens. Et c'est en effet quelque chose qui devrait se reproduire encore d'autant plus que actuellement la Chine et les États-Unis ont des systèmes de coercition qui sont très symétriques. C'est-à-dire que la Chine a répliqué, a adopté tous les instruments que les Américains mettaient en place. La liste sur lesquelles il est interdit, vers les entreprises vers lesquelles il est interdit d'exporter un certain nombre de technologies. La Chine maintenant a une liste comparable. Les mesures d'extraterritorialité, la Chine a également un instrument comparable. Ces licences d'exportation qui finalement ont une dimension très discrétionnaire et qui va dépendre beaucoup, dans un cas, du bon vouloir de Trump et des exemptions qu'il serait prêt à accorder, et dans l'autre, de la stratégie du Parti communiste chinois. Ça signifie que les instruments peuvent être utilisés soit vis-à-vis d'un pays, soit vis-à-vis d'un secteur technologique, soit vis-à-vis d'une entreprise. Et ça crée en effet beaucoup d'instabilité, comme vient de l'évoquer Gilles Lepesant, dans la conduite de la stratégie des entreprises. Et évidemment, avec l'objectif de forcer à faire des concessions et forcer à choisir un camp ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a encore peu de temps, les entreprises étaient plutôt en train d'évoquer un schéma de production aux États-Unis pour les États-Unis, en Chine pour la Chine, et que ça va devenir de moins en moins évident en pressant les entreprises finalement de choisir un marché ou l'autre.
Gilles Lepesant, cela explique la manière dont Donald Trump a signé avec le Premier ministre australien un accord pour une livraison de terres rares australiennes en échange de 3 sous-marins nucléaires américains. Donc, c'est dire le niveau de besoin de l'industrie de défense américaine par rapport à ces terres rares.
Oui, l'Australie, en fait, c'est le seul site majeur d'extraction des terres rares hors de Chine. Donc, la principale raffinerie se trouve en Malaisie, mais les terres rares sont extraites en Chine. Et l'Australie représente aujourd'hui à peu près la moitié des dépenses d'exploration de terres rares. Donc, c'est assurément la puissance montante dans le domaine des terres rares. Et l'accord qui a été signé avec Trump est extrêmement important, puisqu'il porte sur une dizaine de milliards pour 8 projets, à la fois en Australie et aux États-Unis, où les deux pays vont s'entraider pour financer des mines, pour donc extraire des terres rares, mais aussi pour les raffiner, puisqu'on a vu que c'est ça le sujet central en réalité. C'est pas seulement d'extraire ces terres rares, mais c'est de les raffiner pour ensuite construire des aimants permanents.
Et donc il y a une relance de la production, si j'ai bien compris, enfin de l'extraction, pardon, en Californie, mais tout ça va prendre du temps et il y a un savoir-faire qui est à reconstituer en quelque sorte.
Oui, absolument. C'est pour ça que la déclaration de Trump disant que dans un an, on ne saura plus quoi faire des terres rares, tellement on en aura, est un tout petit peu excessive. En réalité, pour vous donner un exemple, une raffinerie qui d'ailleurs était une des dernières raffineries étrangères présentes en Chine, expliquait récemment qu'elle avait eu besoin de 7 ans pour parvenir à un dysprosium. Donc le dysprosium est une de ces terres rares, pure à 99%. Donc ce sont des processus très exigeants sur le plan technologique. Donc il faut effectivement le savoir-faire et cela nécessite beaucoup de temps. Donc ce que les États-Unis font aujourd'hui, c'est non seulement de relancer l'extraction minière en effet, d'investir dans de nouvelles raffineries et de multiplier, je dirais, les entorses à l'économie de marché, puisque l'État fédéral a pris des participations dans des entreprises, a fixé un prix plancher pour certaines terres rares. Donc ça, c'est astucieux, parce que si jamais la Chine fait chuter les prix mondiaux, eh bien, les producteurs américains, eux, auront un prix plancher. Et puis, l'État s'investit massivement dans la constitution de nouveaux sites de production, notamment au Texas, où se situe une partie du complexe militaro-industriel. Et puis,
alors on a des terres rares en France. On n'a pas le temps d'approfondir cette question plus avant, mais évidemment, pour des raisons environnementales, là, pour le moment, en tout cas, on n'a pas l'air de s'y intéresser beaucoup. Marc Julienne, s'agissant de cette rencontre qui, pour le moment, est toujours prévue à l'agenda des deux chefs d'État pour jeudi prochain, donc une rencontre en Corée du Sud. Cela veut dire, au moment où Donald Trump arrive en Malaisie, et il est évidemment très gourmand de la signature de ce traité de paix qu'il prétend avoir imposé au Cambodge et à la Thaïlande, c'est aussi pour le président américain sa première grande tournée dans l'Indo-Pacifique et donc un effort d'améliorer les relations avec le Japon et la Malaisie, des relations qui ont été quand même très ébranlées aussi par l'application de droits de douane prohibitifs.
Absolument, et c'est la raison pour laquelle cette tournée est particulièrement cruciale, parce que depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on ne sait pas exactement quelle est sa politique à l'égard de l'Indo-Pacifique, de la Chine ou de Taïwan en particulier. Il y a quand même eu des signaux assez clairs. Par exemple, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, s'est rendu au mois de mars, donc dans les tout premiers mois de la nouvelle administration. Il s'est rendu aux Philippines et au Japon, donc deux alliés des États-Unis, en réitérant l'importance du partenariat, en développant encore la coopération dans des domaines de sécurité et de défense. Il s'est aussi rendu au dialogue Shangri-La à Singapour au mois de mai, où il a rappelé encore une fois la stratégie Indo-Pacifique, etc. Mais Donald Trump, lui, ne s'était pas beaucoup prononcé. Et il y a quand même des craintes légitimes et que l'on partage en Europe sur la solidité du partenariat et des alliances avec les États-Unis en Asie de l'Est, donc Corée du Sud, Japon, Philippines, pour ce qui concerne les principaux alliés. Et donc, on va voir justement, ça va permettre de voir l'attitude de Donald Trump, est-ce qu'il réitère son engagement dans l'Indo-Pacifique, est-ce qu'il réitère son engagement auprès de ses alliés. Ça sera pas gratuit de toute façon, hein, puisque Donald Trump fait pression sur tous ses partenaires et alliés pour qu'ils augmentent leur budget et leurs dépenses de défense pour acheter du matériel américain. Et puis si c'est aussi, cette tournée a une importance particulière, c'est qu'il va rencontrer des homologues nouveaux. Donc vous l'avez rappelé, au Japon, Sanae Takaishi, qui a été nommé première ministre il y a seulement quelques jours, qui est réputée être une responsable extrêmement conservatrice, qui pourrait bien s'entendre avec Donald Trump. D'ailleurs, elle entend renforcer, enfin vraiment densifier la relation avec les États-Unis. Et puis en Corée du Sud, pays hôte du sommet de l'APEC, Lee Jae-myung, qui est le nouveau président, qui a été élu début juin dernier, après une crise politique majeure en Corée du Sud qui a duré plusieurs mois, après la tentative de déclaration de proclamation de la loi martiale par l'ancien président. Et donc, il va falloir renouer et développer cette relation interpersonnelle entre Donald Trump et ses nouveaux homologues dans des pays extrêmement importants et des pays qui sont extrêmement préoccupés, puisqu'ils sont souvent dépendants, en tout cas dans certains secteurs et commercialement, de la Chine, et dépendants sur le plan de la sécurité de l'allié américain. Et donc, il privilégie une stratégie d'équilibriste pour essayer de ne pas trop énerver la Chine, mais par contre, arrimer l'allié américain en matière de sécurité.
Et il y a des déclarations tout à fait contradictoires. Donald Trump dit « J'ai très envie de voir mon ami Kim Jong-un », donc le dirigeant de la Corée du Nord, qui s'empresse pourtant de développer des missiles balistiques intercontinentaux pour frapper le territoire américain. Et la Maison-Blanche qui dit « Non, il n'y aura pas de rencontre ». Donc ça reste à suivre. Mais Marc, vous avez mentionné l'importance en fait des relations personnel. Et pour Donald Trump en particulier, qui estime toujours que son charme est extrêmement efficace, Donald Trump qui disait encore lundi dernier « J'adore ma relation avec Xi Jinping, nous avons une excellente relation ». Donc, est-ce que ça veut dire, Marc, que, encore une fois, le contact personnel entre Xi et Trump peut faire la différence jeudi prochain, alors qu'on ne sait rien à ce stade, mais enfin le décalage horaire est pourtant favorable avec l'Asie, on ne sait rien à ce stade de l'état des discussions entre les émissaires américains et chinois à Kuala Lumpur.
Non, je doute que la relation interpersonnelle, et d'ailleurs je doute qu'il y en ait une entre Xi Jinping et Donald Trump, puisse jouer un rôle en particulier. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point Trump croit vraiment en ce qu'il dit dans sa relation et son amitié avec Xi Jinping. Du côté de Xi Jinping, j'ai du mal à croire qu'il considère Donald Trump comme son ami et qu'ils vont pouvoir régler ça entre amis, le conflit commercial. Justement, je pense qu'il faut rappeler quand même, parce que beaucoup s'attendent, notamment dans les milieux économiques et financiers, s'attendent ou espèrent un accord commercial important début novembre, donc très prochainement, et en espérant que cette rencontre puisse accélérer, puisse finaliser ce processus-là. Je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes justement sur cet potentiel accord commercial qui peut intervenir, mais je pense que les résultats seront en dessous sans doute des espérances, parce que ça ne va pas remplacer le contexte général, je dirais les fondamentaux de la relation entre la Chine et les États-Unis. Et qui pour moi, il y a deux caractéristiques majeures, c'est que au-delà de la relation même amicale entre les deux chefs d'État et d'un éventuel accord commercial, la relation, la rivalité stratégique entre les deux grandes puissances ne va pas disparaître. Elle est plutôt en croissance depuis de nombreuses années et particulièrement dans le domaine commercial, dans le domaine militaire et encore plus, on l'a déjà évoqué, dans le domaine technologique. Et ça ne va pas changer ni début novembre, ni jeudi, ni début novembre, ni dans les six mois et dans les années qui viennent. Et la deuxième chose, c'est que, et ça a été bien décrit par Elvire Fabry, c'est que la Chine a désormais changé de tactique et désormais, vis-à-vis des États-Unis, mais d'ailleurs aussi vis-à-vis de l'Europe, à mon sens, la stratégie chinoise est celle du rapport de force, de la coercition et seulement de la coercition. Il y a de moins en moins d'engagement, à l'exception des pays du Sud qui sont désormais sa priorité diplomatique pour engager les pays du Sud et développer des relations et avoir davantage de soutien au sein des Nations Unies. Mais vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis, la Chine prend une grande confiance, une grande assurance pour répondre coup pour coup. Et on l'a vu, Donald Trump a utilisé les leviers qu'il utilise habituellement comme les tarifs. Et en fait, la Chine n'a pas du tout plié. Alors, je ne sais pas si c'est simplement du bluff ou si elle a vraiment les cartes en main. Mais en tout cas, c'est ce qui probablement est la meilleure méthode avec Donald Trump.
Et Jean-Pierre Cabestan, vous qui rentrez précisément de Taipei, c'est à Taïwan que le niveau d'anxiété est comme toujours le plus élevé, puisque les dirigeants taïwanais craignent de faire les frais d'un éventuel rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Et Donald Trump a toujours été très ambigu sur son soutien vis-à-vis de l'île que la Chine revendique.
Oui, effectivement, l'administration Trump, depuis janvier, a envoyé des signaux assez contradictoires en direction de Taïwan ou sur la question de Taïwan. D'un côté, demandant à Taïwan de dépenser plus pour sa défense et de l'autre, d'indiquer que, en fait, les États-Unis cherchent à réduire sa dépendance technologique à l'égard de Taïwan et surtout des fabricants de semi-conducteurs comme TSMC, en les incitant à investir aux États-Unis parce qu'ils pensent que Taïwan est devenu un endroit trop dangereux et en les demandant même d'investir massivement aux États-Unis. Les investissements de TSMC aux États-Unis sont passés de 40 milliards, une promesse en tout cas d'investissement de plus de 160 milliards de dollars, et pas seulement en Arizona mais dans d'autres sites américains. L'idée étant que Taïwan est à la fois trop proche de la Chine, trop vulnérable, et devenu plus difficilement défendable par les États-Unis, en particulier son déploiement militaire dans le Pacifique occidental. Donc, d'un autre côté, il y a un ensemble de déclarations américaines qui consistent plutôt à abonder dans le sens d'un soutien à une forme de une meilleure reconnaissance de Taïwan sur le plan international, hein, en particulier à l'idée dans laquelle le statut international de Taïwan reste indéterminé, aussi une remise en discussion de cette résolution 2758 qui est maintenant de 1971, 50 ans, hein, qui, au terme de laquelle la Chine a remplacé Taïwan aux Nations Unies, une résolution qui reste assez ambiguë parce qu'elle ne parle pas de Taïwan, elle parle des représentants de Chiang Kai-shek qui sont morts depuis longtemps, et donc la question de la représentation de Taïwan sur le plan international reste posée puisque Taïwan n'appartient pas à la République populaire de Chine, même si certains pensent qu'elle appartient à la nation chinoise. Et puis sur le site du département d'État américain, la formulation selon laquelle les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan a été supprimée. Alors maintenant, les Chinois voudraient accroître la pression sur Trump en lui demandant de s'opposer à la fois ouvertement, mais aussi par écrit, à l'indépendance de Taïwan. Alors je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Il y a certaines inquiétudes à Taïwan, évidemment, sur la solidité de l'engagement américain de sécurité à l'égard de Taïwan. Vous savez, Taïwan n'étant pas un pays, officiellement, il n'y a pas d'accord de sécurité entre les États-Unis et Taïwan. Il y a un acte du Congrès, une loi du Congrès qui s'appelle le Taiwan Relations Act, qui reste assez ambigu, même s'il assure une forme de soutien à la fois à la société de Taïwan, et surtout à la fourniture d'armes défensives à Taïwan. Mais avec Trump, si on veut comparer Trump à son prédécesseur, Biden, on en est revenu à une posture beaucoup plus ambiguë quant au soutien américain à Taïwan en cas de pépin, c'est-à-dire en cas d'agression de l'armée de la libération. La réponse de Trump, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'il ne sait même pas lui-même l'attitude que qu'adopteront les États-Unis. C'est-à-dire qu'il reste, il est volontairement revenu à une posture d'ambiguïté alors que son prédécesseur Biden avait assuré au moins 4 fois que les États-Unis soutiendraient Taïwan en cas d'attaque des communistes chinois. Alors, ce qui amène le Taïwan, évidemment, à renforcer son effort de défense, d'abord en donnant des preuves, en dégage aux États-Unis, en augmentant de manière assez rapide son budget militaire, qui va passer à plus de 3% cette année, qui devrait atteindre 5% en 2030, en mettant en place un système de défense antimissile, c'est le projet en tout cas, qui s'appelle Tido, mais qui s'inspire évidemment des systèmes d'antimissiles israéliens, même si on est loin encore d'avoir un système aussi complet, aussi performant, en essayant aussi de diversifier ses partenariats. Par exemple, la semaine dernière, il y a à Taïwan une espèce d'exposition de sécurité où un centre de représentants européens était présent, notamment Airbus, mais aussi des sociétés allemandes et d'autres. Et c'est là où Taïwan essaye aussi de se repositionner en développant propre. Et là, c'est une des leçons de la guerre en Ukraine, hein, en développant ses propres systèmes, à la fois de drones et de nouveaux armements qui sont mis en place dans le contexte de nouvelles configurations de la guerre inspirée du conflit ukrainien. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Je pense que Taïwan sera évoqué, mais je ne pense pas que les administrations Trump, sur cette question, modifie sensiblement sa position.
Elvire Fabry, on en arrive donc à la conclusion très très provisoire de cette discussion avec la dimension commerciale qui est évidemment celle qui a le plus préoccupé l'ensemble des partenaires mondiaux. Et bizarrement, d'après les chiffres, en tout cas de l'Organisation mondiale du commerce, qui est très marginalisée dans toute cette affaire, les échanges internationaux ont quand même augmenté de quelque 3% l'année dernière. Est-ce que cela veut dire que cette escalade américano-chinoise, cette guerre des tarifs, pour reprendre le terme américain, en fait, n'a pas complètement désorganisé les chaînes de valeur ?
Elle a d'abord créé beaucoup d'incertitudes. Donc il y a beaucoup d'attentisme dans les projets d'investissement. Mais il est vrai que les dernières évaluations d'évolution du commerce qui ont été publiées montrent plutôt une bonne résistance du commerce international. Alors il faut garder à l'esprit qu'on est encore dans une phase de transition. que dès l'élection de Donald Trump et même début janvier, les entreprises ont constitué des stocks très importants. Le commerce avait repris avant les annonces du 1er avril et puis à nouveau il y a eu une vague de stockage très important. Et donc il faut attendre un peu, encore quelques mois, pour que l'impact de ces droits de douane infuse. Alors il y a une chose qui est en effet le volume du commerce international qui est échangé. Et puis, comme je l'évoquais précédemment, il y a l'enjeu de la réorganisation de ces flux d'échanges commerciaux. Et la Chine elle-même a été, les exportateurs chinois ont montré beaucoup d'agilité dans cette réorganisation, où depuis avril, à peu près 80% des exportations qui se heurtaient à des droits de douane prohibitifs côté américain ont été réorientées vers d'autres destinations, et en particulier vers l'Union européenne, ça on le sait, mais aussi tous les pays du Sud. Et plutôt que de miser sur un gros marché avec qui pouvait faire 20% des exportations d'une entreprise, finalement c'est plutôt un cumul de tranches d'exportation vers des pays du Sud, et c'est qui sont devenus aujourd'hui le cœur de cible de la Chine, beaucoup plus que les États-Unis ou le marché européen. En gardant à l'esprit que la Chine a toujours une stratégie de long terme, et que si aujourd'hui elle est encore très dépendante de ces deux gros marchés américains et européens, elle est déjà en train de camper tout le terrain d'un nouvel engagement, je dirais avec le reste du monde, centré sur les pays du Sud.
Et c'est précisément, Elvire, la raison pour laquelle Donald Trump va rencontrer le président brésilien, puisque c'est le Brésil désormais qui fournit le soja et non plus les agriculteurs de l'Arizona en particulier, qui sont des électeurs trumpistes, MAGA, très importants pour Trump. Donc cela veut dire aussi que pour les Européens, cette régionalisation, et on l'a vu avec un accord qui a été signé, je crois, entre l'Union européenne et l'Indonésie, cette régionalisation, si j'ose dire, du multilatéralisme, elle devient cruciale.
Elle devient essentielle, parce que, en particulier pour les Européens, là, il faut très rapidement trouver aussi de nouveaux débouchés. Donc, on est vraiment à la fois à l'ère de la coercition et à l'ère de la diversification pour atténuer ces risques de coercition. Alors, du côté européen, en effet, il y a une intensification des négociations qui ont donné lieu, comme vous l'évoquiez, à cette signature avec l'Indonésie il n'y a pas longtemps. Maintenant, on est sur le point de présenter au vote au Conseil l'accord qui a été signé fin 2024 avec le Mercosur, et qui serait un débouché important pour un certain nombre de secteurs européens là, qui là sont très exposés aux droits de douane américains. Je dirais qu'il y a des sortes de corridors ou de nouvelles artères du commerce international qui se redessinent, avec soit sur fond d'intérêts géopolitiques ou de critères de garantie de défense, soit pour s'allier dans la défense d'un commerce fondé sur des règles. C'est-à-dire que si l'on voit que États-Unis et Chine s'affranchissent quand même très largement là des principes du commerce multilatéral et de la non-discrimination, il y a à travers le monde toute une série de pays qui veulent maintenir un commerce fondé sur des règles, parce qu'ils savent qu'ils sont trop exposés à ces rapports de force. Et en particulier entre l'Union européenne et les pays d'Asie du sud-est asiatique ou du pourtour pacifique, il y aurait un intérêt à non seulement renforcer des liens commerciaux, mais aussi la défense de certains standards ou la coordination de certains standards communs, en particulier dans le domaine du commerce et de toute l'économie numérique, ou commerce et environnement. Ce sont des nouvelles alliances qui se recréent. Et avec une Chine qui, elle, mise à la fois sur la coopération de Shanghai, sur les BRICS+, avec des nouveaux pays qui ont rejoint le bloc des BRICS. Et puis, encore une fois, en se tournant beaucoup vers les pays du Sud qu'elle approvisionne en technologie verte, technologie numérique. Et puis, pour les États-Unis, quelque chose de beaucoup plus diffus, parce que c'est moins une logique de bloc à l'heure actuelle, c'est plus des négociations bilatérales. Et pour les Européens, la recherche de nouveaux partenariats à travers le monde. Et comme je l'évoquais, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, et il ne faut pas oublier l'Afrique, avec laquelle il faut renforcer les partenariats.
L'Afrique, Marc Julienne, le mot de la fin, l'Afrique et toute l'Asie du Sud-Est, vis-à-vis desquelles Xi Jinping veut présenter la Chine comme un partenaire stable, une stabilité évidemment qui n'est pas du tout l'affichage des États-Unis de Donald Trump.
Absolument, on le voit en matière d'aide au développement, en matière de crédibilité, de fiabilité des partenariats. Et je le disais tout à l'heure, je pense que vraiment la Chine a redéployé sa stratégie diplomatique non plus vers l'Europe de l'Ouest comme c'était le cas il y a 10 ans avec les nouvelles routes de la soie, qui à l'origine, bon, elles se sont beaucoup développées, mais à l'origine c'était une ceinture et une route qui devait connecter l'Asie de l'Est à l'Europe de l'Ouest avec tout ce qu'il y a entre les deux. Et aujourd'hui, la Chine nous parle davantage de initiative globale de développement ou initiative globale de civilisation, des concepts un petit peu difficiles à définir et qui visent très directement le Sud global, ce qu'elle appelle le Sud global, les pays du Sud en développement. Et c'est ce qu'on a vu dans cette séquence diplomatique extrêmement spectaculaire fin août, début septembre, avec le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, où la Chine a montré un peu sa centralité et sa puissance. Voir sa domination, en tout cas son influence au sein de ce Sud global. L'Organisation de coopération de Shanghai est une des organisations. Il y a bien évidemment aussi les BRICS, et je crois que c'est ce qui va se poursuivre. Et le désengagement américain est une menace effectivement très importante dans ce domaine, puisque l'Union européenne et le Japon d'ailleurs se trouvent un petit peu seuls désormais en matière d'engagement et d'aide au développement dans ces pays-là. Et donc j'espère qu'en tout cas que ce sera une politique qui sera poursuivie par l'Union européenne dans, vous avez cité l'Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Elvire Fabrice sur le fait que là, je crois qu'il y a même une opportunité ou même en fait une nécessité pour l'Union européenne d'engager bien davantage sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, avec les pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Asie de l'Est, puisqu'en fait, on est un peu tous dans le même bateau. On est un peu entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté les États-Unis qui sont très imprévisibles et qui lancent des guerres tarifaires, de la coercition économique tous azimuts, et la Chine qui a des excédents de production, donc ces surcapacités que l'ASEAN, donc cette association des nations d'Asie du Sud-Est, et l'Union européenne sont en train, et ça va être de pire en pire dans les années qui viennent, sont en train de recevoir, d'absorber ces surcapacités industrielles qui vont peser, voire qui vont faire porter des risques sur nos industries. Chez nous, c'est évidemment très grave parce que on parle d'emploi, etc. Et en Asie du Sud-Est, c'est également grave puisque ce sont des pays en développement qui sont en phase d'industrialisation et qui, là, font face à un choc très fort qui pourrait interrompre cette industrialisation.
Et donc, il est 11h58, c'est le moment de nous quitter. Rien ne filtre encore des négociations américano-chinoises qui doivent préparer donc la rencontre Xi Jinping-Donald Trump. Merci en tout cas à vous quatre. Merci à Elvire Fabry. Vous avez publié avec Sacha Courtial sur le site de l'Institut Jacques Delors une infographie très intéressante sur l'historique des relations entre l'Union européenne et la Chine. Jean-Pierre Cabestan, vous avez publié chez Taillandet, je recommande vivement votre ouvrage, un ouvrage sur Deng Xiaoping qui était véritablement l'artisan de cet extraordinaire décollage de l'économie chinoise. Marc Julienne, un papier dans la revue Politique étrangère qui vient de sortir sur Trump 2 et l'Asie, Le vent se lève, et Gilles Lepesant, Géographie des énergies, l'Europe dans le nouvel équilibre mondial aux éditions Hermann. Voilà la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Noé Chaban à la technique, Théa Corlaire et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain, bien sûr.